Les coudes sur la table. Les papilles qui pétillent sur Radio Campus Paris.
À Vigneron, ça a une relation tout à fait spéciale avec la vigne, qui est une plante très particulière, puisqu'elle a une mission très profonde, très mystique, c'est de relier le fond, au fond, encore plus loin que ça, au ciel, en haut, dans la mystique. Voilà. Et donc cet effort, cet étirement, demande infiniment de souffrance. Et donc, elle a besoin d'un accompagnement. Ça fait partie des plantes qui ont besoin de présence. Une vigne est sensible au vigneron qui la parcourt, qui la touche, qui la travaille, qui lui parle. Voilà. Donc, j'essaye. C'est comme la foi, on n'est jamais sûr. J'essaye d'être un bon vigneron. Quelqu'un qui est proche de la vigne, quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui reçoit aussi des questions, des doutes, des informations.
Évidemment, on ne peut pas parler de vous sans parler de complantation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et quelle est son importance?
Alors, la complantation, c'est un très, très vieil art qui a disparu il y a une centaine d'années avec la crise phylloxérique et qui consiste à avoir dans la parcelle une diversité génétique, une diversité végétale, d'avoir une vigne diverse avec au sol des plantes diverses, avec une faune diverse, avec quelques arbres dans la parcelle, ce qu'on appelle, les experts appellent ça le modèle forestier, parce que le modèle forestier, il a une caractéristique, il est en équilibre, c'est un biotope équilibré, qui n'a pas besoin d'intervention massive de phytopharmacie, d'engrais solubles tous les 5 minutes. Voilà. Alors que la vigne moderne, telle qu'on l'a construite depuis 1950 avec la génétique, avec les recherches clonales, nous avons été, à partir de grossièrement des années 50, vers une monoculture absolue, où le sol n'est plus qu'un support physique. On peut rouler dessus, on peut marcher dessus, on peut le bétonner comme une route. Dans certains cas, on peut même s'en passer et faire pousser des plantes en apesanteur, sans sol, puisqu'on considère qu'elles ont besoin de fertilité, entre guillemets, et que ça, c'est quelque chose, une espèce de substance magique qu'on apporte. D'accord ? Voilà le concept qui sort des études de Liebig, 1905. La fertilité est un objet rare. Il y en a un petit peu dans le sol, comme il y a les plantes principales et les plantes accessoires qu'on appelle les mauvaises herbes qui puisent. Le niveau baisse et de temps en temps, il faut en rajouter.
Juste, Liebig, on peut peut-être rappeler, parce que on pense pas, les auditeurs ne pensent pas forcément à, quand on parle de viticulture, ils ne font pas le rapport entre Liebig qui fait des potages et Liebig, l'inventeur de la dynamite. Voilà.
Donc Liebig, c'est un chercheur allemand qui a beaucoup travaillé sur le concept de fertilité et qui a inventé les bases de l'agronomie moderne qui repose sur ce principe que finalement la fertilité est une chose rare et exogène au sol. Donc conséquence, il faut fumer, il faut apporter de la fertilité. Et le modèle forestier, eh bien, c'est la démonstration par l'absurde que depuis 500 000 ans, à cet endroit, il y a une forêt qui a personne qui n'a jamais rien apporté et que pourtant, elle pousse, elle est en parfait état, elle est diversifiée, il y a des herbes courtes, il y a des broussailles, il y a des arbustes, il y a des arbres, il y a la canopée, il y a des animaux qui se promènent dedans, et le samedi dimanche, il y a même un chasseur avec son fusil qui s'imagine que lui, il vient réguler la forêt. S'il est un tout petit peu intelligent et respectueux, il devrait se rendre compte que c'est de la forêt qu'il régule. Parce qu'il ne peut jamais tirer que ce qu'il y a dedans. Donc le modèle forestier, cette espèce de morale de l'histoire, devrait nous rendre attentifs au fait que la nature a inventé un équilibre, une harmonie, dans lequel le plus souvent l'homme intervient en étant frénétique et destructeur, et qu'il faut peut-être revenir en arrière. Voilà. Donc j'essaye de faire de la viticulture comme on en a fait en l'an 1000, sans génétique et sans intervention trop violente, en essayant de retrouver l'équilibre, la clé harmonieuse, où l'homme accompagne sans être prédateur. Voilà la complantation. Alors physiquement, ça veut dire qu'il y a des vignes qui sont organisées en rangées et chaque pied de vigne a quatre voisins qui ne sont pas lui. Parce que pour faire une communauté, il faut qu'on soit légèrement différent. Impossible d'avoir un débat si nous sommes absolument identiques, si nous sommes des clones. Il n'y a pas de débat entre clones, ils pensent, ils respirent, ils disent la même chose. Donc si je veux avoir un débat, si je veux que quelque part ce groupe avance, il faut de la diversité. Voilà. Donc nos anciens, qui n'avaient pas de moyens d'intervention lourds, pas de mécanisation, pas de produits de traitement, pas de connaissances scientifiques, avançaient avec le respect, avec l'observation et avec la nourriture de cette diversité. Voilà. La plus ancienne référence à la complantation, c'est le droit romain. Dans le droit romain, vous avez ce qu'on appelle le bail à complant. Le bail à complant, c'est la possibilité pour quelqu'un qui arrive de reprendre une vigne qui est à l'abandon, de la travailler, de la remettre en activité et de planter de la diversité dedans pour retrouver l'équilibre natif. Parce que si vous ne faites rien, la diversité diminue. C'est comme dans une prairie, hein, il y a deux ou trois espèces dominantes qui deviennent majoritaires et finalement seules. Donc le bail à complant, c'est comment on remet de la diversité dans la parcelle et on s'en approprie les fruits, sans être propriétaire de la terre.
Oui, et du coup, vous cherchez à mettre en valeur le terroir. C'est...
Lorsqu'on fait ce travail de respect, d'accompagnement de la nature, d'observation de l'harmonie, on constate qu'il y a des endroits qui produisent des fruits et des vins par glissement qui ont des caractéristiques particulières, caractéristiques qui ne viennent pas de la vigne qu'on a plantée, qui ne viennent pas des technologies qu'on a utilisées, mais qui sont natives.
Ni forcément du cépage, donc.
Et absolument. Et c'est même cette clé de lecture qui symbolise et singularise le modèle français. Nous sommes à 57% sur calcaire. Les calcaires sont des terroirs très profonds, qui ont des personnalités gustatives importantes. Et donc, les Français ont très naturellement fabriqué un système de référence où on nomme le lieu et le caractère original, bizarre, inexplicable, impossible à reproduire ailleurs, qui vient de cet endroit. Voilà, le Meursault, ça n'a rien à voir avec le Chardonnay. Pétrus, ça n'a rien à voir avec le Merlot. Châteaugrillet, ça n'a rien à voir avec... un cépage particulier. L'Altenberg de Berkheim n'a rien à voir avec le Riesling. Il y a là, à cet endroit, une force, une énergie, une signature devant laquelle nous sommes tout petits, parce qu'elle était là bien avant nous, et on espère tous qu'elle sera encore là après nous.
Oui, du coup, vous avez une manière bien particulière de caractériser vos vins. J'ai vu que vous parliez de vins de fruits, de vin de temps et de vin de terroir, justement. Donc, c'est ceux-ci qui sont en question.
Justement, les vins de fruits, c'est quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de terroir. Ben voilà, donc vous mettez dans la bouteille le goût génétique, le goût sélectionné, le goût fabriqué quelque part, isolé, protégé par l'être humain. Et puis, lorsque vous êtes dans le terroir, vous avez un goût qui vous échappe, vous avez un goût qui s'impose à vous. Vous savez, les gens à Sauternes, ils aimeraient bien actuellement faire du vin blanc sec, mais leur identité, elle est dans le grand liquoreux. Voilà, automnal, très riche, très puissant, passé de mode, incompréhensible. Sauf que c'est comme ça, c'est une donnée du lieu, c'est comme une langue maternelle. Voilà, je peux rêver de parler japonais, ma langue maternelle, c'est le français. Je pense, je rêve en français. Donc le terroir, quelque chose qui vient lourdement et qui s'impose à vous. Et donc on peut tout faire pour l'effacer. La plupart des gens préfèrent ça parce qu'ils n'ont pas confiance du tout dans leurs contemporains, dans leurs clients. Donc ils envoient aux clients un message déjà pré-mâché, le goût déjà connu. Parce que l'être humain, sa première demande, avant, après avoir mangé et bu, c'est de retrouver ce qu'il a déjà rencontré une fois. L'être humain a énormément besoin de sécurité. Donc on lui donne du Coca-Cola, il a une caractéristique, partout sur la planète, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel endroit, ça a le même goût. Voilà. Le terroir, c'est tout à fait le contraire. C'est un miroir que la nature vous tend pour apprendre qui vous êtes. En même temps que vous apprenez ce caractère bizarre, nouveau, original, impossible à copier, vous apprenez qui vous êtes. Vous apprenez votre propre réaction devant l'inconnu et vous commencez à fabriquer une civilisation. C'est peupler le réel, commencer à nommer les choses. Voilà, il y a un vieux texte qui nous dit que ce qui n'est pas nommé n'existe pas.
Ça ne peut se faire que dans la diversité.
C'est absolument nécessaire. Voilà, le Riesling clone 49 est une très très belle invention de l'être humain, sauf que comme une note de musique, il est incapable de faire justement une mélodie, une musique, parce qu'une note de musique toute seule, c'est du bruit. Il me faut au moins deux notes pour fabriquer une harmonie. Et donc il me faut au moins deux objets différents pour commencer à fabriquer une communauté. On peut dire la même chose d'un texte. Pour écrire un texte, il me faut un peu de vocabulaire pour dire mes idées. Et sans vocabulaire, je n'arrive pas à dire qui je suis.
Lorsqu'on vous entend parler comme ça, parler de votre vigne, de votre travail, on a l'impression que cette écologie de la vigne, cette biodynamie, elle est politique en fait. Et qu'on a l'impression que vous aimeriez retrouver cette écologie à l'échelle de l'humanité. Est-ce que je me trompe ?
Vous savez, tout est politique, bien sûr. On rêve tous d'un monde meilleur. Après, comment on l'obtient ? C'est la vraie question. J'ai essayé de faire avancer quelques idées simples, qui étaient que le cépage n'est pas un véhicule pour demain, parce qu'il existe aujourd'hui un modèle économique du cépage, un modèle mondialisé du cépage. Dans ce modèle-là, le litre de Riesling est payé 75 cents d'euros. Le litre de Sauvignon est valorisé à 60 cents le litre, etc. Et notre coût de production alsacien, il est à 2,10 euros, 2,50 euros. Voilà. Donc nous ne sommes pas solubles dans le modèle mondialisé du vin de cépage, parce que ici, les parcelles sont petites, le niveau de vie est élevé, la terre est chère, la main-d'œuvre aussi, et donc nous ne sommes pas compétitifs dans ce monde-là. Voilà. Mais ce que je dis est très commun, nous ne sommes pas compétitifs pour les voitures, nous ne sommes pas compétitifs pour les serviettes de bain, nous ne sommes pas compétitifs pour les t-shirts, il va falloir les fabriquer par des gens, excusez-moi, des bougnoules, à poil, exploités, essorés, qui travaillent, je ne sais pas quoi, 90 heures par semaine, etc. Peut-être sur la Lune, ça coûtera moins cher. Donc j'ai dit à mes collègues, le cépage n'est pas un véhicule pour demain. Et donc j'ai compris une chose que je n'avais pas vue, c'est que l'humanité préfère toujours tuer les messagers que d'accepter les mauvaises nouvelles. Donc il y a eu une petite incompréhension, et maintenant un peu de temps est passé. Et ils viennent de comprendre le message. Il ne reste que les terroirs pour retrouver de la vitalité économique, de retrouver de la valorisation du travail, parce que nous ne sommes pas compétitifs. Voilà. Il faut que nous comprenions tous qu'au bout de la mondialisation, la seule valeur qui est encore une valeur, c'est l'identité. Voilà. Donc ça, c'est un peu difficile à expliquer. Tout le monde ne comprend pas toujours. Mais bon. Les viticulteurs, il leur faut un peu de temps. Mais finalement, ils comprennent.
Et en tirant sur le messager, comme vous dites, à défaut de le tuer, il semblerait qu'on le renforce aujourd'hui. Et votre nom est désormais une référence, on peut le dire, dans la biodynamie. Est-ce que vous avez l'impression que votre message, il est de plus en plus audible et il a un avenir conséquent devant lui?
Alors écoutez, ce n'est pas à moi de juger si le message que j'ai porté a de l'avenir, je l'espère. Ce que je peux dire qui me touche, c'est que je vois énormément de jeunes vignerons qui viennent me voir et qui collaborent avec moi en s'appuyant sur mon travail et en s'appuyant sur mon exemple, parce qu'ils comprennent très très bien que cet espace que j'ai défriché, renoncer aux cépages pour retrouver le terroir, cet espace-là, il est fécond. Voilà. Donc, je ne suis pas capable de dire à quelle vitesse ça ira, et ce n'est pas moi qui maîtrise la récession mondiale ou tout à coup l'embellie économique, mais je ne vois pas bien que nous puissions faire de la viticulture mondialisée. J'ai vu encore récemment une photo d'un vignoble en Inde où trois jeunes hommes qui, tout mouillés, devaient peser 36 kilos, labouraient avec un tronc d'arbre, en le tirant avec des cordes. Donc, si c'est ce modèle qu'on veut imposer, allons-y, mais moi, je n'y vois pas beaucoup de futur.
Est-ce que vous croyez néanmoins en une révolution décroissante ou en une révolution d'une agriculture qui se dirigerait vers la biodynamie, dans sa globalité, non plus de la seule viticulture, mais de la biodynamie en général?
Alors écoutez, je sais pas si j'ai envie d'être qualifié de militant ou de défenseur de la biodynamie, parce que je crois qu'il faut remettre les choses chacune à sa place. Pour moi, la biodynamie est un ensemble de technique, est un ensemble de moyens, est une méthode pour être plus tolérant, plus respectueux de la nature. C'est certainement pas le seul chemin, il y en a sans doute d'autres, surtout que dans la biodynamie, il faut s'entendre absolument sur cette question. Chaque acteur, chaque paysan invente sa propre biodynamie, parce que biodynamie, c'est juste un nom générique pour qualifier la relation au lieu, la relation à la plante, la relation à l'animal et finalement la relation aux collègues, la relation aux salariés, la relation au monde. Et chacun de nous pratique une biodynamie un petit peu différente. Parce que chacun de nous, et c'est totalement légitime, a une sensibilité un petit peu différente. Donc moi, si on veut m'entendre, Je souhaiterais un monde où les paysans retrouvent ce libre arbitre, retrouvent la possibilité de refonder cette relation au lieu, cette relation à l'animal, cette relation à la nature en général et aux êtres humains. Voilà, c'est ça que je demande. Je ne voudrais pas qu'on en fasse des robots qui utilisent des technologies extrêmement bornées, extrêmement normées, où il faut faire comme ça et pas autrement, où il faut utiliser tel produit, voilà, où il faut utiliser tel clone. Voilà. Je déplore, par exemple, qu'en France, aujourd'hui, il y a un mouvement au niveau de l'INAO pour essayer de spécialiser les cépages.
Qu'est-ce que ça veut dire, spécialiser les cépages ?
Eh bien, ça veut dire que Bordeaux, c'est du Merlot et du Cabernet Sauvignon, point. Le petit Verdot ne sert à rien, le Sémillon ne sert à rien, la Muscadelle ne sert à rien, il faut virer tout ça. La Bourgogne, c'est assez simple, le Chardonnay et le Pinot Noir, ça suffira. Exit le Beureau, exit le Gouet, exit tous les vieux cépages, tout ça, ça ne sert à rien. Et pour l'Alsace, c'est assez simple, le Gewürztraminer et le Riesling, ce sera parfait. Et on va interdire aux autres de l'utiliser. Vous voyez, ça, c'est un monde qui me fait très, très peur, parce que c'est un monde d'affrontement, c'est un monde de sanctuarisation, c'est un monde de repli sur soi-même. Chacun va être propriétaire d'un clone, propriétaire d'une marque du vivant. Non, je crois qu'en face de moi, il y a la multitude des êtres humains qui ont besoin de diversité, qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de quelque chose qui leur parle, quelque chose. Et ça, ce discours-là, il a besoin de diversité. J'ai besoin, je suis sûr de ça absolument. Voilà. Et donc, tout ce qui m'empêche d'avancer sur ce chemin est ressenti pour moi comme un fascisme, comme un nouveau nazisme. Vous voyez, c'est le bonheur des gens malgré eux, quoi.
Alors, vous utilisez des mots assez forts, vous parlez de fascisme, votre discours est foncièrement militant, en définitive. Est-ce qu'il n'est pas temps, de sortir les armes quand vous nous parlez justement de ces nouvelles décisions de l'INAO et de la globalisation du goût et d'un goût monolithique en définitive? Est-ce qu'il n'est pas temps pour les plus jeunes, au moins pour les nouveaux, de sortir les armes?
Si sortir les armes, c'est être violent, s'insulter, s'envoyer des lettres d'insultes et de menaces, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Il faut agir sur les consciences, il faut expliquer inlassablement les enjeux, il faut être exemplaire, il faut donner l'exemple. Voilà. Je crois finalement à une plus grande efficacité d'exemplarité que du sitting politique qui conduit qu'à des blocages, qu'à des affrontements face à face, voilà, où personne n'avance et personne ne recule. C'est la guerre de 14. Non, je crois qu'on mérite mieux que ça. Il faut faire confiance aux jeunes, aux énergies. Ils sont en train de fabriquer un nouveau monde. Tous ces scénarios de repli vont être balayés. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je crois pas qu'il faut être comme ça, inventer un conflit. Il faut se battre pour ses idées. Et si ses idées sont justes, les choses vont se faire.
Et si ce n'est pas les armes, c'est forcément l'éducation. Comment intégrer cette notion dans l'éducation aujourd'hui?
Oui, alors, si vous voulez, aujourd'hui, où en sommes-nous? On sort d'un temps, c'est 40 ans, 50 ans, d'un concept très simple. Un produit, quel qu'il soit, présenté dans le cadre d'une norme, est organoleptiquement identique pour tout le monde. Ça, c'est le concept des années 70. Je mets un verre de vin dans un verre Yenao, et toi et moi, on goûte la même chose. Ça, c'est la posture des années 70, c'est ce qui a permis, par exemple, de déboucher sur la notation des vins. Monsieur Parker dit, ce pinard, il vaut 100 sur 100. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce vin, goûté dans des conditions parfaites, idéales, est identique pour tout le monde et il vaut quelque part 100%. Voilà. Nous sommes en train de déconstruire ce concept parce qu'il y a les apports les plus récents des neurosciences qui démontrent que le monde que nous voyons, le monde que nous sentons, le monde que nous goûtons est totalement individualisé. Chacun de nous goûte, voit, sent un monde absolument différent. Et donc, aujourd'hui, on débouche devant un nouveau paysage. Le vin ne serait plus absolument objectif, il serait totalement individualisé, il appartiendrait au fantasme individuel. Auquel cas, il ne peut plus y avoir aucune prescription. D'accord ? Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de réfléchir comment on peut sortir de cette impasse. Et effectivement, est-ce qu'il n'y a aucune prescription possible? Est-ce que chacun de nous est totalement seul dans sa bulle? Auquel cas, la communication va devenir impossible. C'est une question fondamentale parce que est-ce que Mozart, c'est du bruit simplement ou est-ce que ça pourrait être beau pour le plus grand nombre? C'est cette question qui est posée. Donc, on est en train de travailler sur la façon dont nos anciens ont construit leur rapport au vin. Et on a découvert que il existait une caste de gens qu'on appelait des gourmets, qui avaient une expertise très particulière quant au devenir des vins, quant à l'évolution des vins, qui étaient capables de prédire ce qu'un vin allait devenir dans 40 ans.
De quelle époque vous parlez là ?
Là, on parle de tout le Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne, jusque pratiquement à la crise phylloxérique. On va dire 1880. Là, on a 1000 ans, où quelque part, l'être humain, il y a une catégorie de gens qui ont été capables de dire qu'un vin, tel vin, qui venait de tel endroit, de tel terroir, avait certaines caractéristiques prédictibles à l'avance. Et voilà. Et donc, on essaie de comprendre comment ces gens ont dégusté. Et on voit qu'ils ont dégusté dans le noir, qui ne se sont pas servis de leurs yeux pour voir la vérité, ce qui est assez paradoxal. Donc on est en train de travailler avec des verres noirs, on est en train de travailler dans le noir, on essaie de voir s'il y a quelque chose qui nous rassemble. Voilà. Et on découvre que le toucher de bouche la notion d'épaisseur, la notion de chaleur, la notion d'énergie, ça monte ou ça descend, la notion de courbe, est-ce que c'est ouvert ou fermé, est-ce que c'est salivant ou sec ou granuleux, ça, le toucher, le tactile est beaucoup plus commun entre tous les hommes que l'analyse, la dégustation analytique, c'est-à-dire la description essentiellement aromatique.
C'est l'Université des Grands Vins ?
C'est l'Université des Grands Vins qui est quelque part le cadre dans lequel on essaye de mettre en œuvre ce travail, et nous allons déboucher, j'espère, sur une formation qui sera proposée à des jeunes et à des moins jeunes pour essayer d'apprendre le terroir, sa manifestation sous l'angle gérosensoriel, c'est-à-dire comment chaque terroir produit une empreinte en bouche, une épaisseur en bouche, une information tactile en bouche qui permet de le reconnaître et qui permet de le prévoir sans que nous soyons des spécialistes. Parce que ce qui me hérisse le poil, c'est l'idée qu'il y aurait des sommeliers, des experts, des journalistes, voilà, des gens qui auraient la vérité infuse, révélée, et que les autres, le reste du monde serait assis à écouter le message. Voilà. Donc on travaille pour essayer de retrouver une certaine démocratie de la dégustation des vins. Et c'est très encourageant, et on voit déjà apparaître des conséquences très intéressantes sur la question de l'alimentation. Parce qu'un produit alimentaire possède, s'il est de grande qualité, les mêmes manifestations tactiles que le vin, qui, quand il est de qualité, c'est-à-dire qu'il vient d'un terroir, qu'il a une véritable identité. Voilà. Donc on voit bien, par exemple, que les viandes, on voit que les légumes ont une signature tactile très particulière lorsqu'ils sont de grande qualité, lorsque l'animal a été bien nourri, qu'il a été aimé, qu'il a été nommé, sa viande a un goût très particulier qu'on est capable de reconnaître. Donc il y a ce travail qui est formidable, qui est devant nous. Voilà, donner de l'information, donner de la formation et donner du libre arbitre au plus grand nombre pour qu'ils puissent évacuer les doutes et avancer en pleine lumière, ce serait super. Voilà. Peut-être plus ça que le militantisme avec les armes à la main, tu vois. Ça s'appelait dans un autre monde, dans le temps, universalité.
Alors, dans le meilleur des mondes, on instaurerait dans les cursus scolaires, dans les écoles publiques, des sensibilisations à cette agriculture de qualité, des produits de gastronomie pour les plus jeunes, jusqu'au vin pour les étudiants les plus âgés.
C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est en route. On a déjà commencé à sensibiliser nos enfants à la qualité de ce qu'ils mangent. On a compris assez récemment, ça fait que 4-5 ans, qu'on ne pouvait pas leur donner n'importe quoi et qu'on avait là une responsabilité. Enfin, ça me semble assez engagé. Alors, il y a encore un hiatus concernant le vin. Parce qu'il est clair que dans notre société, il y a une élite politique qui pense que le vin, c'est toujours égal alcoolisme. Ce qui est assez stupéfiant, parce que le grand vin, c'est tout sauf de l'alcoolisme, c'est de la civilisation et de la culture en bouteille et en partage. Voilà. Et deux hommes qui boivent un verre de vin de qualité sont resplendissants, ils sont meilleurs, ils sont plus libres, ils sont plus intelligents, ils ont un verbe plus coloré, ils sont plus proches. Enfin, voilà, ils ont juste trouvé sur la trajectoire les quelques virgules et points d'exclamation pour y arriver, quoi. Voilà, parce que si on leur fait boire de l'eau, ça risque d'être beaucoup plus difficile, et peut-être que la pulsion meurtrière, le pogrom ressort, tu vois. Voilà, et qu'on retrouve les armes à la main et la guerre civile.
Donc le vin serait une ponctuation entre les vivants.
Ah oui, c'est une très jolie expression. Ça m'irait bien. Tu vois, comme je suis assez fatigué ce soir, l'idée qu'il pourrait y avoir ponctuation entre les vivants par le vin, c'est une vision assez paisible, oui. Ça me va bien.
À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.